les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'émission sera exceptionnellement présentée par 12 services civiques de l'heure, à savoir Stélie, Laura, Gaël, Elodie, Élise, Maëlys, Eva, Alexandre, Geoffrey, Loïc, Océane et moi-même, Samuel, dans le cadre d'une journée de formation avec la radio Principe Actif. Je vous laisse pour le sommaire avec Stélie.
Merci Samuel. Je vous présente le sommaire. On va dérouler avec les droits des femmes et des inégalités. Fait par Laura, Gaël, Samuel, puis moi, Stélie. Puis enchaîner sur l'interview de littérature de la librairie avec Elodie et Élise. Et on retrouve également l'interview micro-trottoir autour d'Antisport avec Loïc et Océane. Et pour finir, le micro-trottoir sur la précarité avec Maëlys, Eva, Alexane et Geoffrey.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe Actif, 102.4 FM.
Dès maintenant, nous retrouvons Kalissa, interviewée par Stélie, Samuel, Laura et Gaël sur les droits des femmes et les inégalités hommes et femmes.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct avec Kalissa, juriste, membre du CIDFF, donc le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Et bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Donc le CIDFF donc est une association créée en 1986. Nous sommes 8 salariés actuellement. Donc nous avons deux secteurs. Le secteur emploi, donc c'est mes collègues qui interviennent notamment sur tout ce qui concerne l'aide aux bénéficiaires du RSA. Donc le but étant, c'est d'essayer de leur trouver des formations adéquates par rapport à leurs compétences, voire même trouver un emploi. Et puis on a le secteur juridique. Donc le secteur juridique est constitué de 3 juristes. Notre rôle et nos domaines d'intervention, c'est tout ce qui concerne le droit de la famille, donc les séparations, divorces, garde d'enfants, pension alimentaire, tout ce qui concerne aussi le droit des étrangers et toute forme de violence, c'est-à-dire les violences conjugales, les violences au sein de la famille, mais aussi le harcèlement au travail.
D'accord.
Donc voilà un petit peu les champs d'action du CIDFF.
D'accord. Alors, avec quel public travaillez-vous ?
Je vous dirais tout public. C'est vrai que moi, en tant que juriste, ça va être plutôt le public qui va intervenir, notamment dans des points d'accès au droit, des maisons de justice. Ça peut être dans les centres sociaux. C'est tous les lieux où on a nos permanents juridiques. Donc, ça peut être des jeunes, ça peut être des mineurs, tout comme ça peut être des adultes. Vraiment, on n'a pas de public ciblé.
D'accord. Et sur quelle zone géographique intervenez-vous ?
Alors, surtout le département.
D'accord.
Au niveau de nos lieux de permanence, alors certes, notre siège se trouve à Évreux, au niveau de la Madeleine, mais après, on effectue plusieurs lieux de permanence sur Évreux. Donc, ça peut être donc à Évreux-Nétreville, à Évreux, la Madeleine, mais dans un autre secteur que notre siège. C'est également à Saint-Michel, ça peut être au centre-ville, donc à la Maison de la Justice et du Droit d'Évreux. Et puis après, ça passe de Bernay, Breteuil, Charleval, Conches et Trépanny. Il y a quoi d'autre ? Les Andelys, Louviers, Pitre, Pont-Audemer, Pont-de-l'Arche, Romilly, Rude, Saint-André, Val-de-Reuil et Verneuil et Vernon.
D'accord. Quelles sont vos demandes en général ?
Sur le volet juridique, c'est souvent tout ce qui concerne la séparation. Voilà, c'est soit un couple qui se sépare ou c'est un couple qui est déjà séparé, mais ils n'arrivent pas à trouver un accord, notamment sur mon enfant, il est à mon domicile, mais il voudrait retourner vivre chez la mère ou chez le père, ou il y a une question de pension alimentaire. Ça peut être aussi sur la séparation même, donc un couple qui veut divorcer ou qui veut séparer. Il y a des enfants, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, nous, on leur explique toutes ces démarches-là.
D'accord.
Alors, du coup, vous nous avez dit que vous êtes dans la section juridique, pas forcément vous, mais au sein de l'association, quelles sont les inégalités hommes-femmes auxquelles vous êtes le plus confrontés ?
Les inégalités ?
Oui.
Bah, je vous dirais déjà la différence de salaire.
Exactement, ok.
Après, ça peut être aussi le fait qu'au niveau des femmes, il n'y a pas une évolution de poste plus facile que pour certains hommes. Après, je vous dis ça dans ce cadre-là, mais il nous arrive aussi que parfois, il y a des différences de traitement entre les hommes et les femmes et qui sont plus préjudiciables pour les hommes que pour les femmes.
Ok. Quand je voulais dire inégalité, c'était ça. Enfin, je l'ai peut-être mal expliqué, mais ça englobait aussi les violences. Est-ce que vous avez plus de harcèlement, de viol, de choses comme ça ? Qu'est-ce que vous rencontrez le plus, en fait ?
Qu'on rencontre le plus, sur les violences, il est vrai qu'en termes de violences conjugales, malheureusement, on en a pas mal. Après, vous dire est-ce qu'ils ont augmenté ou non, je serais incapable de vous dire parce que je n'ai pas les statistiques. Après, je vous dirais, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, non pas parce qu'il y a de plus en plus de violences conjugales, mais tout simplement parce que les personnes osent en parler plus facilement.
D'accord. Et du coup, vous, quelles sont les solutions que vous essayez d'apporter aux problèmes auxquels vous êtes confrontés ?
Sur la question des violences, c'est déjà leur faire prendre conscience qu'elles sont victimes de violences conjugales. Parce que pour certaines personnes, ça fait partie du quotidien et donc il n'y a pas cette problématique. Et puis après, leur dire, voilà, il y a des solutions. Comment on fait pour s'en sortir ? Aussi, leur faire prendre conscience qu'elles sont en capacité de faire certaines choses d'elles-mêmes. Donc nous, on leur explique aussi le volet, quels sont leurs droits, si elles veulent partir, si elles veulent garder le domicile, est-ce qu'il faut qu'elles fassent appel à un avocat ou pas. Voilà, on est vraiment dans, on rétablit la vérité juridique, je vous dirais.
D'accord. Et vous êtes souvent confrontée à des mariages forcés ?
Ça, non. On en a quelques-uns. Mais par rapport aux violences conjugales, on en a vraiment sur un petit nombre.
D'accord, ça marche. Et quels sont les gestes ou les comportements à adapter face à cette situation ?
Par rapport au mariage forcé ?
Oui, c'est ça.
Les gestes, je vous dirais, tout dépend à quel moment ça arrive. C'est-à-dire, est-ce que le mariage forcé a déjà été effectué ou est-ce que il y a l'optique d'un mariage forcé ? Parce que si, par exemple, on sait qu'une personne va être mariée de force dans tel pays ou même en France, je vous dirais là, c'est comment on fait pour éviter que le mariage se produise.
Oui, c'est ça.
Donc là, on organise la protection de la personne, on lui explique quelle est la capacité de faire et autres. Si le mariage est effectué dans un autre pays, donc on fait tout pour qu'elle ne parte pas du territoire français et que si elle partait du territoire, voilà quels sont les documents à fournir, prévenir la police aux frontières au cas où si on est au niveau des transports, des douanes ou des choses comme ça. Et puis si le mariage a déjà été réalisé, c'est dire voilà, vous pouvez demander la nullité du mariage, vous pouvez porter plainte notamment contre le mari parce que en général ça se traduit souvent par des rapports sexuels forcés. Mmh. Et donc c'est du viol et donc on leur explique qu'ils peuvent déposer plainte par rapport à ça.
Et du coup, êtes-vous contacté généralement par les victimes elles-mêmes ou par leur entourage pour toutes ces situations ?
Pour les mariages forcés ?
Pour toutes les situations en général ?
Alors, je vous dirais, pour le peu de personnes que j'ai reçues sur les mariages forcés, en général, c'est les femmes elles-mêmes.
Oui.
Concernant les violences conjugales, c'est souvent les personnes, c'est les victimes. Et on a, dans de rares cas, les membres de leur famille.
D'accord. En quoi l'éducation banalise ces inégalités hommes-femmes ?
Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu.
En quoi l'éducation banalise les inégalités hommes-femmes ?
En quoi ? Eh bien, dans le sens où, je vous dirais, tout semble tout à fait normal. On a l'impression qu'il y a du sexisme qui se crée, mais on ne s'en rend pas compte. Donc on reproduit le schéma qu'on a nous-mêmes subi, entre guillemets. Tout ça est confirmé par, je vous dirais, la télé, par les publicités, par les catalogues de jouets, ce qui fait qu'on réaffirme les mêmes principes qu'avant. Et c'est là où on arrive sur un principe d'inégalité homme-femme. Et c'est pour ça qu'on leur dit, attention, dans l'éducation de nos enfants, on peut avoir des comportements sexistes qui va créer une différence entre les hommes et les femmes.
Ok. Alors du coup, j'avais une question. Qu'est-ce que faire si on est victime ou témoin de ce genre de situation, que ce soit dans le bus, au travail ou dans la vie de tous les jours ? Si on est victime de harcèlement, enfin si on est témoin de harcèlement ou de violence faite aux femmes, comment moi par exemple je pourrais intervenir ?
Alors après tout dépend des violences. Parce que je vous dirais, si on est sur sur des violences conjugales, en effet concrètement vous pouvez pas intervenir. Parce que le but étant, c'est que si vous intervenez alors qu'il y a de la violence, que monsieur est violent par exemple avec madame, alors je dis pas que tous les hommes sont auteurs et les femmes sont victimes, hein, on a aussi des hommes victimes de violences conjugales, mais la difficulté c'est que si vous intervenez vous-même, ça peut très mal finir aussi pour vous.
Et dans ce cas-là, il faut plutôt contacter votre association.
Exactement. Après, le but étant, c'est surtout que la personne victime nous appelle. Après, ou demande de la famille, parce que pour vous, une personne extérieure, c'est difficile. Après, je vous dirais, si vous voyez l'auteur taper madame, appelez la police pour qu'ils interviennent, police ou gendarmerie.
D'accord.
Ça serait la meilleure des choses, et montrer que vous êtes présent et que vous êtes susceptible de faire une attestation pour dire que vous étiez tel jour à tel endroit et que vous avez vu monsieur violenter madame. Ça peut être une bonne chose. Après, quand on est dans le cadre du harcèlement, par exemple scolaire, où c'est des camarades de classe, là, en effet, il faut avertir notamment l'établissement scolaire ou tout adulte pour régler ce problème-là.
D'accord.
Alors, avez-vous remarqué une évolution positive depuis la création de votre structure ? Désolée.
Quelque chose de positif.
Oui, amélioration.
L'amélioration, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres structures. Ce qui fait que quand une femme qui est victime vient nous voir, on a les solutions à lui apporter. C'est-à-dire que si c'est une question d'hébergement, on va voir avec une structure pour essayer de trouver un hébergement. S'il y a le volet social, c'est-à-dire quelles aides financières elle peut prétendre ou autres, on va la renvoyer vers l'assistante sociale, on va renvoyer vers la CAF aussi. S'il y a un dépôt de plainte qui doit être déposé, on sait qu'il y a toujours une difficulté de franchir le cap d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des assistantes sociales du conseil départemental qui sont dans les commissariats de police et les gendarmeries. Donc on les oriente vers ces personnes-là pour que ça facilite les choses, notamment dans le cadre de la démarche d'un dépôt de plainte, par exemple. Donc c'est en ce sens-là où notre organisme est bien et que ça a réellement une utilité. Et puis après, c'est vrai que je vous ai parlé du secteur emploi et du secteur juridique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait également des interventions, notamment auprès de tout public. Donc on intervient dans les milieux scolaires, mais aussi dans tout ce qui est CFA, mission locale et autres. Et on fait notamment des interventions sur la question des préventions des violences sexuelles et sexistes. Et ça permet de recadrer et de dire, attention, comment peuvent arriver les violences conjugales. On doit faire un effort sur notamment les comportements sexistes qu'on peut avoir. Et on fait la même chose notamment au niveau des parents pour que dans leur comportement et dans l'éducation qu'ils donnent, on soit vraiment sur un principe d'égalité homme-femme.
D'accord.
Donc je vous dirais, voilà les bienfaits de notre association.
Et vous,
maintenant, on a encore du travail, hein, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire changer et évoluer.
D'accord. Et vous avez souvent des bons retours suite aux demandes, les situations ?
Oui, alors, dans le cadre des violences conjugales, on fait un accompagnement des femmes victimes. Donc, on voit leur évolution, on voit la phase de la période où ils sont encore en couple, la phase où ils se séparent, où ils prennent la décision, la phase où ils sont séparés, la phase où ils sont divorcés, et puis tout ce qu'il y a après. Donc on voit les bons retours.
D'accord.
Et puis aussi la meilleure des réponses qu'on peut avoir, c'est nos permanences en général sont assez pleines. Et comment, quand on leur pose la question, puisqu'à la fin on a un questionnaire pour nos statistiques, on leur pose la question comment ils ont connu notre structure, on se rend compte qu'il y a pas mal de bouche à oreille. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont déjà été reçues par nous. Ils ont été satisfaits, donc ils refont appel à nous.
D'accord, bah merci beaucoup. Je vais vous demander une dernière petite chose. Est-ce que vous pourriez nous donner vos coordonnées pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient vous joindre ?
Bien sûr. Donc le CIDFF se trouve au 12 rue de l'Espéranto à Évreux et nos coordonnées pour tout rendez-vous juridique ou autre, nos coordonnées sont le 02 32 33 44 56.
Merci beaucoup.
Et mais de rien.
Et bah au revoir et bonne journée à vous.
Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.
On continue sur de la littérature avec une interview faite par Elodie et Élise qui ont interviewé Gwenaëlle de la librairie L'Oiseau Lire.
Bonjour, nous sommes avec Gwen. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre structure et votre fonction ?
Bonjour, moi je m'appelle Gwen, donc je suis libraire à L'Oiseau Lire, la librairie spécialisée jeunesse d'Évreux. Nous avons déménagé depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant. Depuis début mai, on a réouvert au 24 rue Docteur Oursel, toujours spécialisée jeunesse avec un petit rayon adulte. Voilà.
Merci. Quel type de public accueillez-vous ?
Surtout des familles, forcément, spécialisées jeunesse. Les enfants n'achètent pas encore leurs livres eux-mêmes, hein, à part quand ils commencent à devenir grands. Mais souvent un public familial, bien sûr, et puis aussi un public assez âgé parfois, puisqu'on a pas mal de grands-parents, forcément, dans ces périodes-là, qui achètent des livres aussi pour les petits-enfants. C'est pour ça qu'on a un petit rayon adulte, d'ailleurs, c'est pour qu'eux aussi trouvent leur bonheur, les parents comme les grands-parents aussi.
Merci. Quel ouvrage jeunesse a été le plus vendu cette année ?
Eh bah, bonne question, puisque j'en sais rien. Nous sommes dans une librairie où, moi spécialement, je conseille et je vends des livres pour les enfants et non un livre qui sera à la mode. Donc je ne saurais pas répondre. Alors après, nous, on vend beaucoup de titres parce qu'on les aime bien, que ce soit en jeunesse ou autrement, parce qu'on a des prix littéraires. Donc forcément, ceux-là, on les vend bien, mais c'est parce qu'on les met dans des prix littéraires qu'on a, donc comme les Dévoreurs de livres, Croqueurs de livres ou Janusz Korczak. Mais pour le coup, j'ai aucune idée parce que je suis pas très mode. Alors certainement si on regardait les effets de mode, ça devrait être Harry Potter cette année qui se vend avec la sortie du film. Mais clairement c'est pas celui que j'ai vendu le plus moi ici parce que voilà, il y a plein d'autres choses qu'on vend en fait. On vend par rapport à ce qu'on nous dit comme demande. Ça dépend ce qu'on nous demande. Je peux pas vendre la même chose pour n'importe quel enfant.
Quel genre littéraire est le plus vendu ?
Alors en littérature jeunesse, souvent les albums. C'est quand même les albums souvent qui sont le plus vendus. Parce qu'après, sur du rayon ado, on va être plus sur du fantastique, qui se vend toujours très bien. Donc forcément, tout ce qui est fantasy, fantastique, se vend très bien. Mais sinon, en plus jeune, on est souvent sur les albums quand même. Puisque souvent, c'est quand même là les plus grosses demandes entre 0 et 6 ans, ça va être les histoires à raconter. Donc des formats albums.
Faites-vous des nominations pour les enfants ?
Bien sûr, on a tout un planning, vous les trouvez sur notre site, loiselire.fr. Mais oui, il y a tout un planning entre animation. Là, on en ressort d'une animation avec David Esplan de la MJC. Justement, qui est venu à la librairie pour faire une animation musicale autour d'un album que j'aime beaucoup. C'est moi qui vais conseiller, on va dire, Les Deux Grenouilles à Grande Bouche, qui a une histoire super drôle. Et puis, Contrevenir, parce que du coup, il se marre bien, et nous aussi, en fait. Donc, on va le refaire, normalement, et c'est toutes les 6-7 semaines, là. Enfin, on verra en janvier, quoi. Donc, il y a ça, et puis il y a bien sûr des dédicaces. Là, on a une le samedi 15 décembre, du coup. Enfin, une double dédicace, du coup. Une première partie de dédicace sur un fanzine local, Bretzel, le matin. Et l'après-midi, c'est Loïs Scherer, une toute jeune illustratrice. Jeune, je ne sais pas si elle l'est, mais en tout cas, elle a fait que 2 albums pour l'instant, mais qui sont magnifiques. Donc, une dédicace l'après-midi. Et puis, on a après une dédicace le 19 décembre d'un éditeur, Sophie Bazin, de Dodo Vol. Et puis, ce sera bien pour la fin d'année, quand même. Après, on passera à Noël, hein, parce qu'on se reposer un peu aussi après.
En cette période de fête, quel ouvrage recommandez-vous par tranche d'âge ?
Oh, vous êtes pas pressé, j'espère, alors. Non. Parce que là, il y a du boulot, moi, j'ai tous les âges. Célia, si tu veux participer, je t'en prie. Bon, il y a les classiques. Hein. L'ascenseur de Petit Paresseux, c'est la première animation qu'on a fait musicale avec David Esplan. Donc, un bestiaire qui se tient en vertical. Donc, il y a une histoire de ce petit paresseux qui veut aller prendre un bain. Et donc, il va croiser plein d'animaux. Et donc après on remonte dans l'arbre. Donc c'est une histoire qui est très drôle, qui est très colorée. Mais je l'ai tellement diffusée à Évreux, et on l'a tellement diffusée avec la librairie à Évreux, je pense que maintenant tous les enfants l'ont. Voilà. Après pour les plus jeunes, qu'est-ce que j'ai lu récemment ? Je viens de faire partir le Bon Divor Géant. Il y a les classiques, la Chasse à l'ours. Chasse à l'ours qui est une superbe randonnée, donc une répétition de situation en fait, avec une épreuve. Donc ça c'est un grand classique, alors c'est pas une nouveauté, mais il marche toujours, et il y a toujours des enfants qui naissent fort heureusement, donc des enfants qui ne le connaissent pas. Forcément. Si on grandit, il y en a quoi en ce moment ? Du coup pour les plus grands, le Loïs Scherer à partir de 8-9 ans, 7-8 ans. Donc elle est illustratrice, donc clairement on va l'inviter pour ses illustrations. Sylvain Sylvani sur l'imaginaire et le fait de grandir. Quand on demande à un enfant de ranger son cheval de bois parce qu'il ne... Mais il est trop grand maintenant. mais que finalement ce cheval de bois a une dernière aventure à proposer à son maître en quelque sorte. Tout sur l'imaginaire et le pouvoir de l'imagination pour les enfants. C'est super intéressant, c'est beau et il a une chute magnifique aussi sur le monde de l'imaginaire. Donc vraiment un très bel album pour les plus grands, par exemple. Là, j'en ai pas parlé à la radio en plus. Ce que c'est que j'ai parlé, c'est Veilleur de licorne, mais il faudra écouter l'émission L'Oiseau délire.
Après, ado plutôt.
Ado. C'est la suite du dernier songe de Lord Scriven. Donc c'est un polar à la Sherlock Holmes. C'est Eric Senab, donc chez Didier Jeunesse, c'est un super auteur. J'aime beaucoup Eric Senab, je suis un grand copain à lui, enfin un grand copain. On se connaît bien depuis quelques années maintenant. Et donc c'est du Sherlock Holmes, mais avec du fantastique. C'est-à-dire qu'on suit les aventures d'un mage indien, d'une espèce de mage hindou dans le long du 19e siècle, donc très Sherlock Holmesien, qui ne résout pas les énigmes comme Sherlock Holmes avec des petits détails, mais qui rêve. Il s'endort. Il s'endort et il rêve, et il y a des choses qui lui apparaissent de façon imaginaire et imagée dans ses rêves qui lui permettent de résoudre l'énigme. Mais il a besoin d'un réveil. Parce que s'il s'endort trop longtemps, il ne pourrait pas revenir. Donc il embauche un jeune journaliste qui a été viré parce qu'il était un peu trop curieux. Suite à de l'espionnage industriel, il est un peu trop fouillé, donc on l'a foutu à la porte. Et du coup, il va servir de réveil à ce policier. Mais c'est assez bizarre, et au début, le journaliste est très, bien sûr, très sceptique, en mode « oui, bien sûr, on y croit », sauf qu'il voit vraiment ce qui se passe. Et donc ça, c'est la suite, un vallon du sommeil sans fin, quand les habitants d'une auberge s'endorment et ne se réveillent plus. Et bizarrement, pour un mage spécialisé dans le sommeil, enfin, qui trouve les réponses en dormant, c'est un très bon moyen de commencer une enquête. Donc c'est très drôle, et c'est très Sherlock Holmesien, malgré ce fantastique.
Et pour les adultes, alors ?
Donc Nicolas de Crécy, Les Amours d'un fantôme en temps de guerre chez Albin Michel. C'est donc Nicolas de Crécy qui est un illustrateur de BD à la base, quand même plus connu pour sa BD. Il nous a fait un premier roman, puisque c'est la première fois qu'il écrit et qu'il illustre, puisque c'est un livre illustré. Nous suivons un fantôme, alors malgré, je suis désolé, la couverture est pas belle, j'y peux rien, je l'ai déjà dit, mais voilà, la couverture j'aime pas, mais le reste est génial. Nous suivons un jeune fantôme, très jeune fantôme de 90 ans à peu près, je crois. Oui, c'est très jeune, un fantôme, à cet âge-là, on est... Donc c'est vraiment les fantômes classiques, là, on est vraiment dans le fantôme typique, même, si je puis dire, c'est le drap, le côté drap du fantôme. Et ce fantôme, un jour, se réveille dans sa maison, donc normalement, il a des parents fantômes, ils ont des parents fantômes aussi. On sait pas trop d'où ça vient, ils savent pas trop, hein. C'est plutôt des gens qui apprennent à comment se comporter comme un fantôme, comment faire peur aux êtres humains, mais pas trop, parce qu'on n'est pas obligé de se transformer en poltergeist, on peut être un peu sympa, on peut juste faire bouger les trucs gentiment. Et un jour, il se réveille dans cette maison sans ses parents qui sont partis en voyage. Et du coup, il en a marre de rester un peu tout seul dans la maison. Et il va partir, il va découvrir qu'il y a une guerre entre fantômes, entre différents fantômes. Et cette guerre, elle se déroule à notre époque en 1936. Et on va découvrir que le monde des fantômes est lié au monde de l'humain. Et que la guerre qui est chez les fantômes, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les humains qui inspirent la guerre chez les fantômes, mais les fantômes qui ont amené la guerre chez les humains. Puisqu'on va avoir une espèce de guerre avec du fascisme dessus et du nazisme. Et c'est donc les fantômes avant. Qui sont avant les humains. C'est un superbe récit d'histoire aussi, en quelque sorte, mais surtout un magnifique roman d'aventure avec ce fantôme et tous ces personnages qui vont naviguer autour, la collaboration qu'il y a pu y avoir, la résistance. C'est sublime. Moi, j'adore. Je suis totalement fan. C'est un roman illustré, voilà. C'est de Nicolas de Crécy, donc les illustrations sont superbes et le texte est très facile à lire pour des ados comme pour des adultes. Ouais, c'est un gros coup de cœur, ça. Gros coup de cœur.
Et pouvez-vous nous présenter un coup de cœur ultime ?
Coup de cœur ultime, alors s'il fallait choisir, franchement, mais il est génial, mais du coup, c'est dur de choisir. Ce serait François Place, qui est un auteur-illustrateur que j'aime beaucoup, c'est Le Marquis de la Baleine, chez Gallimard Jeunesse, son dernier album. Donc François Place, qui est un auteur-illustrateur très connu maintenant dans le monde de la jeunesse, qui a gagné énormément de prix, enfin ce mec est un génie quand il écrit, quand il illustre, alors c'est pénible, un peu pour les autres, je pense, d'ailleurs. Et là, c'est une pièce de théâtre. En plus, c'est original puisque ça change. Le Marquis de la Baleine, c'est ce petit royaume. Dans ce petit royaume, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Sigismund, donc Balthazar, le roi, et Mirabel. En fait, Sigismund, qui est leur neveu, est revenu dans ce royaume et leur a dit « Tout le monde se fout de vous. » Sérieux, dans le reste du monde, c'est la honte. Hein. Vous êtes honteux, quoi. Lui, tu fais quoi ? Ça va pas. On va faire une guerre. Non, mais tu peux pas. Cherche pas. J'ai une idée. On va chasser une baleine. On va la ramener là et on va tous la manger. Donc, l'objectif de ce roi, c'est de trouver le moyen de faire chasser une baleine à l'autre bout dans un autre royaume et de la ramener sur un chemin prédéfini pour que tout le monde puisse l'admirer et la bouffer après. Bon, je vous rassure, il n'y a aucune baleine qui a été maltraitée lors de l'écriture de cet album, de cette pièce de théâtre, puisqu'en fait, c'est tout un humour sur la politique et c'est sous forme de pièce de théâtre, donc c'est super original. Ça change, c'est détonnant et j'adore l'humour parce que c'est cette préparation de ce repas, ce roi qui s'imagine plein de choses tout le long de la pièce de théâtre, mais rien qui arrive jamais en fait. Enfin, il n'a pas compris encore quoi. Donc voilà, c'est bourré de drôle. Et c'est bien sûr, oui, il y a bien sûr, faut pas oublier la participation de la baleine quand même, qui est très importante dans le roman. Elle participe énormément à notre album. Hein. Et c'est superbement illustré parce que c'est François Place, donc c'est des détails très fins, c'est des dessins très très fins. Avec toujours des dialogues complètement délirants et en même temps sublimes quoi. Voilà. Là, ils imaginent appâter la baleine et la chasser à la canne à pêche, quoi. Ils pensent que ça se pêche comme ça, une baleine. Voilà. Et là, ils imaginent leur repas. Voilà. Dantesque, bien sûr. Quand on mange une baleine, il faut un peu de place, quand même, dans le ventre. Voilà. Ce serait un coup de cœur de l'année, mais vraiment parce que je dois choisir.
Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver tous les ouvrages à la librairie L'Oiseau Lire.
Nous poursuivons avec une petite interview et un micro-trottoir autour de l'handisport avec Océane et Loïc.
Donc bonjour, nous sommes maintenant avec monsieur Silva Dias, responsable de la... Allez. Oui, pardon.
Lundi basket à Madeleine, oui.
Voilà.
Bonjour monsieur Silva Dias.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter par rapport à ce que vous faites à l'ALM Basket?
Bah, disons que moi, je m'en occupe de la section handi-basket depuis les années 70. Moi-même, je pratique le basket aussi avec mes collègues. Voilà, et puis bon, bah, on fait championnat loisirs, championnat normal.
Quel est votre regard sur l'accessibilité des handicapés au sport?
Le regard au niveau de les handicapés, moi, c'est au niveau du basket... c'est une très bonne chose pour eux, pour pouvoir se distinguer par rapport à tous les sports qui existent. Bah, bon, bah, c'est le seul sport en fauteuil qu'on pourrait pratiquer. Il y a le tennis de table et d'autres aussi, mais bon, moi personnellement et puis les collègues, c'est le basket.
D'où est venue l'idée de créer une section handisport à l'ALM Basket?
Ben, disons que moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 20 ans, je pratiquais du basket. Au départ, c'est mon sport favori, c'était le basket. Bon, comme je suis en fauteuil, bien sûr. Donc, ça m'intéressait beaucoup, pratiquer ce du basket. Donc, après, il y a une section dans des baskets qui s'est créée dans les années 70. Et moi, je faisais du basket. Les personnes qui étaient des régions à ce moment-là, bon, ils sont arrêtés. Et moi, j'ai repris ça derrière.
D'accord.
Je suis resté.
Donc, au sein de l'ALM Basket, quel est le public ciblé?
Le public le ciblé, bon, ça se fait bien qu'on fasse ça dans les grands matchs, qu'on pourrait un peu être un peu plus regardé, mais c'est pas évident chaque fois. Bon, ça demande beaucoup de logistique à mettre en place.
D'accord.
Combien y a-t-il de licenciés à l'heure actuelle au hockey basket?
C'est variable. Des fois, on est 15, 20. Actuellement, on est 10. Bon, il y a certains qui essayent de le faire, puis ils arrêtent. Bon, ça peut évidemment trouver toujours une moyenne.
Au niveau du matériel, comment ça se passe? C'est vous qui mettez à disposition ou c'est les personnes qui viennent avec leur propre matériel?
Non. Nous, on avons le matériel. On met à la disposition de chaque personne qui veut essayer. On a des fauteuils qui sont adaptés aux fauteuils, au basket, je veux dire. Donc, on les met à disposition. Les personnes les essayent. S'ils veulent continuer, ils continuent.
D'accord.
Comment les personnes intéressées pour faire du handi basket peuvent vous contacter?
Oui, moi-même ou alors au niveau de l'ALM, l'ALM fédéral, bureau principal.
D'accord, sur Internet
Oui, sur Internet aussi, on a un site.
Sur le site de l'ALM?
Sur le Facebook, oui.
D'accord.
La Fédération française aussi, il y en a.
D'accord, merci Alexandre.
Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.
Bon, allez, au revoir, merci bien aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, quelle image avez-vous des personnes en situation de handicap dans le sport?
Je trouve ça très bien, ça les valorise, ça les met en avant et il faut qu'ils continuent.
Je les trouve très courageux. Pour moi, c'est un exemple, il faudrait que tout le monde comprenne que c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils peuvent pas faire comme tout le monde, c'est des êtres comme tout le monde, ils sont juste différents.
Mais écoutez, je les trouve souvent extraordinaires de volonté et même des fois de prouesse et de score ou de volonté. Mm-hmm. Voilà. J'aime bien regarder les Jeux Olympiques en e-sport. Quand j'étais plus jeune, je connaissais des sportifs en e-sport qui pratiquaient le ping-pong de table, le tennis de table, et qui pratiquaient aussi le basket. Et ça me plaisait beaucoup et j'allais souvent les voir jouer parce que j'ai trouvé extraordinaire. Et puis, comme je vous dis...
Oui, on avait même suivi. Et ça nous arrive de regarder même sur la 2.
Non, je ne sais pas.
Si. Ah bon. Du handisport.
Bon, moi, je ne sais pas sport, alors je ne regarde pas le
avant
sport.
Tantôt.
Bah justement, quelle image avez-vous de l'handisport?
Ils sont bien courageux.
Bien courageux?
Ah oui, ça. Oui, il faut avoir le moral. Oui.
Okay. Je trouve qu'on ne voit pas de sport. Il y a des handicapés à la télévision, tout ce. Voilà. Je pense qu'on ne voit pas assez de comment on appelle ça, de compétition sportive pour justement les handicapés, on ne voit pas. On voit que les gens, entre parenthèses, disent normal.
Dans le sport?
Oui.
Quelle image j'en ai? Ils sont bien courageux.
Dans le sport, c'est formidable ce qu'ils font. C'est formidable. Hein. C'est des beaux exemples de la vie, de plein de choses.
D'accord. Voilà. Et que pensez-vous des associations sportives qui mettent en place justement des choses pour les sportifs en situation de handicap?
Je trouve ça très bien, mais il faudrait que... C'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils doivent être dans une association particulière. Ils devraient être avec tous les autres, comme pour les Jeux Paralympiques. Ça devrait pas exister, c'est des sportifs comme les autres.
Merci.
Ah je trouve ça très bien, parce que comment dire... C'est pas parce que les gens sont... handicapés qui n'ont pas la volonté de faire des exploits, de se mettre en avant ce qui est tout à fait légitime, peut-être encore plus dans leur cas. Donc moi je suis complètement pour que les gens favorisent le handisport et favorisent le handicap en général, enfin favorisent l'accessibilité oui. et tout ça pour le handicap en général.
Pareil, je trouve ça très bien. Après, faut pas les mettre de côté non plus, faut pas les mettre dans des cases. Ils peuvent le faire aussi avec des personnes sans handicap ou quoi. Ça reste un être humain comme tout le monde et il a le droit de faire du sport avec qui il veut. Voilà.
C'est bien, oui, d'accord. À condition qu'il n'y ait pas 25 ou 30% de frais de gestion.
D'accord.
Hein, parce que...
Que l'argent aille aux handicapés et pas à ceux qui...
Même oui, à ceux qui, qui organisent. C'est, oui. Ça devrait être du bénévolat. Ou, hein, et autre chose aussi, qu'elle n'envoie pas des kilos de papier publicitaire.
D'accord.
Parce que, bon, je vais en prendre un qui n'a rien à voir. Les impôts et... Bon, c'est 20 fois par an, c'est scandaleux.
On n'entend pas beaucoup parler, quoi, c'est ça. Je veux dire, je pourrais même pas en citer une sur Évreux. C'est un petit peu vague. Justement, je pense qu'ils se montrent pas assez, ils font pas assez de publicité, enfin beaucoup de choses, justement, pour aller voir aussi bien tout ce qui est parallèle à l'handicap au niveau sportif. Bah, il faut des gens comme ça, oui. C'est très bien.
Bah, c'est bien de le faire parce qu'ils ont droit au sport comme les autres athlètes.
Et pour terminer, nous avons pour sujet la précarité avec un micro-trottoir réalisé par Maëlys, Eva, Alexandre et Geoffrey.
Quelle appellation donneriez-vous aux personnes marginalisées ?
Je dirais qu'elles sont en marge de la société.
Bah, je sais pas, moi. Il me dérange pas.
Si c'est marginalisé, je dirais que c'est un peu voulu.
Exclu de la société.
D'accord.
Elle même. Enfin, elle s'exclut. Ouais.
Pas d'appellation particulière, parce que enfin, je trouve qu'il ne faut pas les catégoriser.
Des SDF, c'est des personnes sans domicile, sans domicile fixe, mais le problème c'est que le terme SDF ne comprend que le domicile, alors que les personnes marginalisées sont des personnes la plupart du temps sans domicile, mais également sans nourriture et sans argent.
Quel regard portez-vous sur les personnes en situation de pauvreté ?
C'est une bonne question. Malheureusement, je peux pas juger. J'ai pas envie de juger.
Voilà. Bah, qu'on vit dans un pays où c'est pas évident pour tout le monde. Que Macron va augmenter de 100 euros le SMIC. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon. Et puis qu'il y en a qui sont pauvres. Il y a ceux qui sont pauvres parce qu'ils ont pas le choix. Il y a ceux qui sont pauvres parce qu'ils ne cherchent pas de travail et qu'il suffit d'aller dans les boîtes d'intérim pour en trouver.
C'est triste. Puis on devrait pas être dehors. On devrait pas mourir de faim aussi. Pouvoir s'habiller comme tout le monde, se laver comme tout le monde, avoir un logement. Voilà.
C'est dommage qu'il y ait des personnes dans cette situation-là.
Je suis la première, comme tout le monde, je pense, dans la rue. On les voit, mais on passe devant. Il m'est arrivé des fois des voyages à Paris où, vous savez, les sandwichs de l'école, c'est pas ça. De les donner, quoi, pour qu'ils aient quelque chose à manger, voilà.
C'est triste parce que c'est incroyable qu'en 2018, il y ait encore des gens qui soient obligés de dormir dans la rue ou qui ne puissent pas manger à leur faim.
Quelles sont les raisons pour lesquelles une personne peut se retrouver à la rue marginalisée ?
Certainement une perte d'emploi, un changement de situation professionnelle. Voilà.
Ça veut dire en marge de la société, ça, on est d'accord. La dépression, le chômage, la pauvreté. Quand on n'a pas d'argent, on ne sort pas, on reste chez soi. On ne peut pas non plus inviter les gens, donc on se replie sur soi-même. Ouais, l'isolement, enfin voilà quoi.
Alors là, ça peut être des situations par un divorce, plus d'emploi. Après, ben, y a la drogue, l'alcoolisme, et puis tout ça quoi.
une personne qui est contre la politique du gouvernement ou qui a des opinions un peu, comment dire, terre à terre, quoi, un peu, voilà.
Son état d'esprit aussi.
Bah, comme ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Désolée.
Parce que ça ne touche pas assez soit à son travail, soit qu'elle ne trouve pas de travail, tout simplement.
Et enfin, quelle solution pourriez-vous proposer pour leur venir en aide ?
De mettre un gilet jaune sur un rond-point.
Qu'il faut essayer de s'entourer, d'aller dans des centres d'aide où on peut parler, où on peut trouver des solutions, essayer de sortir pour trouver de l'emploi, ça permet de se sociabiliser et de voir du monde, de sortir. Voilà.
J'ai pas de solution, malheureusement. Malheureusement, j'ai pas de solution.
Il faudrait qu'il y ait des organismes qui arrivent à s'occuper de ces personnes pour arriver à les sortir justement de la marginalité, quoi, de arriver à penser autrement. Voilà.
Il y a les associations déjà. Puis après, que chacun un peu plus d'aide à autrui, quoi.
Alors, quelle solution ? C'est un peu compliqué. J'ai pas d'idée.
Que comme pour les retraités, une partie des salaires soit distribuée pour les personnes marginalisées.
Cette émission est présentée par nos services civiques Samuel, Stélie, Gaël, Loïc, Océane, Alexane, Eva, Geoffrey, Maëlys, Elodie, Élise et moi-même Laura. Merci à nos invités, Kalissa, juriste au sein du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Monsieur Silva Dias, responsable de la section handisport basket de la LM Évreux, et Gwenaël de la librairie L'Oiseau Lire. Vous pourrez retrouver ce programme en podcast sur le site de la radio Principe Actif. Bonne soirée à tous et toutes.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.